Module 3. Les montagnes habitées.
Ce faux muret évoque des constructions typiques du territoire, les terrasses. Rapprochez-vous de l'image en relief pour découvrir la manière dont elles sont construites. La légende se trouve à gauche et l'image à droite avec la montagne vue de profil en coupe. À la gauche de l'image, la partie légèrement oblique est composée de grosses pierres, repérables à un relief plein sur l'image tactile. Ce sont les pierres de parement qui sont visibles quand nous sommes face au muret. Plus à droite, à l'intérieur du muret, d'autres pierres, plus irrégulières, servent au remplissage. À mi-hauteur, à l'horizontale, une pierre plus longue, appelée boutis, part de la façade et se poursuit jusqu'à la terre. Elle structure le muret. À droite des pierres de remplissage, les lignes en relief horizontal indiquent l'emplacement de la terre de remblai. Encore plus à droite, le talus en terre est matérialisé par des petits points en relief. Au-dessus du muret, des plantes poussent sur la terrasse. Ces terrasses sont construites dans la pente, se succédant comme les marches d'un escalier.
Les terrasses font partie intégrante du paysage. Soutenues par des murets en pierre sèche, c'est-à-dire construits à la main sans mortier, elles transforment les pentes raides en une succession de banquettes au relief plus plat. En retenant la terre, ces aménagements limitent l'érosion, tout en drainant les surfaces par l'écoulement de l'eau plus aisé à travers les murets. Ils permettent ainsi de cultiver les parcelles ou de faire pâturer les troupeaux plus facilement. Dans les champs, génération après génération, les pierres en surface étaient retirées, une à une, afin de faciliter le travail du sol et de valoriser la surface agricole. Les pierres extraites étaient alors rassemblées en tas, appelées clapiers. Ces derniers constituent un élément clé du paysage de montagne, tout en fournissant des abris à de nombreuses espèces, en particulier des invertébrés. L'entretien et la restauration des terrasses contribuent à préserver un savoir-faire ancien, ainsi qu'un patrimoine rural et paysager précieux. Grâce à leurs fissures et à l'assemblage des pierres uniques entre elles, sans mortier, les murets en pierre sèche créent de nombreux micro-habitats.
Leur attrait dépend de la forme et du volume des cavités, ainsi que de l'exposition au soleil, au vent, à l'humidité, aux précipitations, comme la pluie ou la neige.
Les pierres emmagasinent la chaleur du soleil en journée et la restituent au cours de la nuit, apportant un microclimat plus chaud que l'environnement extérieur. Cette grande variabilité de conditions est par conséquent propice à l'installation d'une multitude d'espèces aux exigences écologiques variées. Sur les pierres s'installent d'abord les lichens et les mousses, qui constituent la première fine couche de sol. Avec le temps, de petites plantes saxicoles, comme certaines fougères ou des plantes grasses adaptées à la sécheresse, se développent dans les moindres interstices. Entre les pierres, une faune discrète mais abondante trouve alors refuge et nourriture, insectes, araignées, escargots, mais aussi lézards des murailles, orvets et petits mammifères. Certains oiseaux viennent aussi profiter de cette nourriture disponible dans les murets. Ceux-ci deviennent de véritables lieux de vie où les espèces animales et végétales interagissent. En bas à droite de l'image tactile, essayez de reconnaître l'odeur placée sur le muret. Vous pouvez mettre ce commentaire en pause. Vous avez trouvé ? Il s'agit de l'odeur du thym. Vous êtes toujours face au muret ? Dans un mono-écouteur installé sur le panneau derrière vous, vous pourrez entendre le témoignage d'Étienne Charles, chargé de mission sentier et signalétique au Parc national des Écrins.
Terminons par un autre trésor façonné par la main de l'homme il y a très longtemps, la parure de Réallon. Découverte par hasard en 1932 dans un champ de Réallon, cette parure est un témoignage remarquable du passé. Datée d'environ 2800 ans, elle appartient à l'âge du bronze final et compte parmi les plus beaux bijoux mis au jour dans les Hautes-Alpes. Il s'agit d'un ensemble d'accessoires en métal de couleur noire qui étaient sans doute portés lors d'événements importants ou de cérémonies. Aujourd'hui conservée et exposée au musée départemental des Hautes-Alpes, la parure de Réallon révèle le goût pour l'esthétique et le savoir-faire des artisans de l'époque. Tout d'abord, la parure comporte une ceinture articulée, également appelée tablier. Elle se compose d'une partie horizontale, telle un collier très large, faite de nombreux petits anneaux encastrés, qui devait être maintenu autour de la taille. Sur ses côtés, deux pendentifs verticaux sont également faits avec des anneaux encastrés. Ensuite, la parure inclut des torques, c'est-à-dire des colliers rigides, comme des anneaux avec une ouverture, qui étaient portés autour du cou. La parure comprend également des boutons, petits ronds, qui étaient sûrement utilisés sur des vêtements. Enfin, un anneau, ancêtre de la bague, complète cet ensemble.
Nous espérons que cette audiodescription vous aura permis d'avoir une représentation de la vallée de Réallon, véritable joyau du parc national des Écrins.